家，ta mère, Migration, Lucavo, cadre coopératif qui s'appelle le Fondavine, une nouvelle orientation de la cave coopérative sur des produits autres que le vin. Donc, c'est une forme de commerce qui s'installe sur la commune. C'est bien. Donc avant d'attaquer le... Oui.
Un mot aussi peut-être sur les déchetteries.
On le fera à la fin.
Ok.
On le fera à la fin, oui. Oui, vas-y, je suis prêt.
Alors, bon, je souhaite brièvement donc prendre la parole et je vous demanderai de bien vouloir respecter cette parole jusqu'au bout. Je serai brève, mais j'espère dans un climat bienveillant et je vous en remercie. Une remarque en préambule, le compte rendu du dernier conseil municipal est pour moi impossible à valider. Je vous invite à écouter l'enregistrement du conseil, notamment sur la question de la ZAC, et à le comparer à ce qui a été écrit. Au passage, il n'y est pas mentionné le fait que je suis sortie après le vote concernant la demande de consultation. Je pensais qu'il y aurait l'obligation de le signaler en tant que tel. Mais ça, c'est le préambule juste. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que pour moi, le dernier conseil municipal du 11 août a atteint ce que j'appellerais le summum du ridicule en termes de tenue, en termes de dialogue impossible, en termes de total déni, moi ce que j'appelle de démocratie municipale. Néanmoins, je souhaite aussi dire que c'est une impasse de laquelle il nous faut absolument sortir, je pense, à tout prix, de part et d'autre, ensemble et intelligemment. Mais cela ne sera possible, à mon sens, qu'en décidant ouvertement de véritablement dialoguer. Et excuse-moi, Claude, de te le dire comme ça, mais je pense que tu es vraiment passé sur une occasion en or à travers toute cette action autour de la ZAC. Tu aurais pu saisir cette demande de consultation pour avis des électeurs ou au moins la commission ouverte avec des citoyens que nous proposions. Le fait de discréditer notre libre démarche d'élus concernant un mouvement de contestation de cette ZAC, ou d'ailleurs sous toute autre question, ce n'est pas normal. Suite au dernier conseil municipal, nous avons préféré quitter le collectif, car notre place d'élus a été sans cesse mise en avant pour limiter son existence indépendamment, et nous ne voulions pas involontairement nuire à la portée de ce collectif. Nous n'en demeurons pas moins totalement solidaires avec lui, à son écoute, et nous continuons de soutenir avec énergie cette démarche de contestation de cette ZAC. Son combat, je pense, ne s'arrêtera pas ce soir à notre vote. Et puisqu'aujourd'hui il s'agit de tirer le bilan de la concertation, je suis étonnée de ne pas voir apparaître plus que ça, dans le document de préparation, ce mouvement du collectif. Sauf à dire que tu as reçu quelques personnes, enfin, je crois, de concertation. Notamment, sa forte présence et la claire expression d'une volonté contre cette ZAC au moment de la réunion publique du mois de juin. Tout le bien fondé de la démarche citoyenne, collective, active, qui a sous-tendu ce mouvement, mérite d'être entendu et doit absolument être inscrite dans ce bilan de concertation. Le succès de cette mobilisation ne peut pas être escamoté, c'est pas possible. Et c'est peut-être par là que nous pourrions commencer à sortir de cette impasse que je trouve infernale, par une considération mutuelle.
Ok, écoute, je prends acte de ta demande, de ton message. Bon, il me semble que nous sommes dans un pays démocratique, vous avez la possibilité de vous exprimer. La démocratie est mise en place une équipe qui a un projet et qui ira au bout de ce projet parce qu'elle a été élue sur ce projet. Que vous soyez contre, je le comprends. Mais ce qui me concerne, j'ai au bout de ce projet parce qu'il a été inscrit dans le cadre de notre contrat. On passe avec avec les commissaires et les électeurs. Donc, j'entends. Je pense que dans la concertation, il y a des éléments qui ont été énoncés, pour lesquels nous tiendrons compte, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir toute la vérité. Mais voilà, ouais. Le projet en lui-même sera amendé de certaines remarques. Le projet, en ce qui me concerne, il ira au bout. Et j'ai pu voir que, quand même, par rapport à ce projet, on a les faveurs de la préfecture, de la sous-préfecture, parce que c'est un projet qui va être dans l'état à venir. Parce que tout ce qui est aménagement qu'il y a pu avoir, pas uniquement dans Montpérouse, mais sur les autres villages, les lotissements qui sont en fait que des découpages parcellaires, ne prennent pas en compte justement la vie qu'il y a à l'intérieur de cette urbanisation, ne prend pas en compte tout ce qui est le paysager, ne prend pas en compte tout ce qui est le social, ne prend pas en compte tout ce qui est hydraulique, ne prend pas en compte tout ce qui confère à ce que ça, le social, tout ce qui confère à ce que ce soit quelque chose qui s'intègre aussi, qui soit en harmonie avec l'existant. Donc, moi. Il y a des choses qui seront retenues, mais le projet en lui-même, moi je le dis, vous êtes sans acte, mais ne soyez pas sans vision. Vision, c'est ça, l'avenir, elle est de travailler, de voir comment effectivement le village peut évoluer. Le village, il a été construit sur une succession de quartiers. C'est ni plus ni moins un quartier, un prolongement, mais qui sera un prolongement de l'existant. Le bâti en lui-même n'est pas quelque chose qui impacte l'environnement. Le bâti, ce qu'il y a sur le village, on ne peut pas dire qu'il impacte. Il y a certains endroits, on peut en témoigner, mais lorsqu'il est bien conçu, comme a été conçu le village, il n'impacte pas. Au contraire, il apporte du caractère, il apporte de l'identité. C'est ce que nous voulons faire. Jamais, sur Montpérouse, tout ce qui a pu être construit depuis que je suis élu, il n'y a jamais eu autant de précautions à veiller à ce que, effectivement, ce qui va être fait s'adapte au bâti existant. Jamais on a eu le souci de penser à cette mixité, à voir comment l'ensemble des gens qui confère la population puisse se réunir dans un quartier. Jamais, à aucun moment, on n'a pensé autant aux paysagers. Vous avez à peu près, au niveau des chiffres, il va y avoir à peu près 9 000 mètres carrés de bâti, de plancher, pardon. Ce qui veut dire que ça peut être divisé par deux, puisque le plancher, il y a le réseau sur ces étages, ça peut être divisé par deux. Donc, et il va y avoir 8 000 mètres carrés de voirie, en comprenant les parkings. Les parkings, donc ça c'est une estimation, les parkings peuvent être aussi être faits en stabilisé. Donc encore, on peut aussi avoir l'occasion de diminuer la partie bétonnée. Donc, sur une surface qui fait 6 hectares, en gros, ça fait pas tout à fait 2 hectares qui seront urbanisés. Le reste, ça sera des voiries ou du paysager. Donc, le paysager va représenter à peu près 28 000 mètres carrés. Jamais, à aucun moment, il y a eu autant un souci de penser à l'intégration par le paysager. Et moi, je pense très, très sincèrement que en travaillant bien ce projet, en mettant un cahier des charges qui soit le plus élaboré possible, je pense que ça peut devenir la véritable porte d'entrée de Montpérouse en le travaillant bien. Donc je pense que c'est vraiment un projet où l'architectural, le paysager, le social, l'urbanisation, le lien avec l'ancien sera pris en compte. Alors, je respecte votre position, mais nous, je pense que pour l'avenir du village, ce projet va continuer à donner la dynamique, va continuer à donner ce qui va conférer à notre village cette identité. Voilà ce que je pouvais dire en préambule de notre conseil, mais le préambule est aussi, s'inscrit aussi dans notre projet de création. Voilà.
Comme on en est au préambule, monsieur le maire, les yeux dans les yeux, vous me dites que nous avons le soutien de la préfecture sur la partie pavillonnaire avec 45 pavillons.
Il n'y a pas 45 pavillons.
Ou 42, enfin bref.
La préfecture, elle... On va commencer. Ok, d'accord. C'est 29 logements, pas 45. Le projet de la préfecture, c'est de faire de cet espace le plus possible un village rue. Donc, vous aurez 29 habitats individuels. 35 habitats denses et 17 habitats collectifs. Donc, c'est quelque chose qui là non plus, c'est...
17 habitats collectifs, donc, qui ne seront pas entourés, qui seront contigus. Donc, 35 habitats denses. Dans ce qui nous avait été présenté, si je me souviens bien, on avait 37 habitats contigus et 45 sous forme pavillonnaire, à moins que ça ait changé.
Aujourd'hui, on va commencer le conseil municipal, quand même.
C'est une bonne idée.
Voilà. Donc, on va démarrer. Donc, comme tout départ de conseil municipal, il y a donc l'approbation du procès verbal.
Moi, je voulais faire la remarque comme quoi une conseillère était partie avant l'heure, ça n'avait pas été mentionné dans le délai.
Alors okay. C'est ma faute, ma très grande faute, car j'ai fait le PV et je l'ai oublié, et je m'en suis aperçu après l'avoir envoyé, et j'aime pas trop faire les annuler en place, parce que ça parasite un petit peu l'information, donc je voulais faire le rectificatif ce soir. Effectivement, ce sera mentionné dans le PV définitif qui sera collé sur le registre, maintenant, vous le savez, signé uniquement par monsieur le maire et le secrétaire de séance, et donc il sera ajouté très exactement à la fin de la première délibération. Départ 2, Françoise Louchka, à
18h45.
Okay. Une autre remarque, d'ordre plus général, et je le dis alors, très franchement, c'est un compte-rendu qui est tout sauf objectif et distancié. Je vais juste prendre un exemple tout bête parmi d'autres, mais à un moment donné, il est fait mention d'une question qui nous est adressée, d'une remarque qui nous est adressée, comme quoi nous ne sommes jamais aux réunions. Par contre, la réponse que nous faisons ne figure pas. C'est la moindre des choses, des démarches éthiques, que lorsque quelqu'un est mis en cause, de mettre ce qu'il a pu répondre. Donc, ce compte-rendu, pour moi, il est ni fait ni à faire. Et donc, je voterai contre, mais de la manière la plus énergique possible. Voilà.
Ok. On prend acte de ta remarque. On passe au vote. Donc... par rapport au compte rendu du procès verbal, qui est contre, qui s'abstient.
Moi, j'étais absente, donc je recommande pas être en mesure de valider, invalider le procès verbal.
Avant de démarrer, je vous fais passer la liste pour les présences. Merci de la signer. Il faut établir un secrétaire de séance et qu'il veut s'en charger. Allez. Ok. Donc on va passer directement là. Ben déjà concernant c'est sûr merci, excusez-moi. Oui, concernant l'objet de ce soir, disons pas mal de choses déjà ont été dites dans les préambules et vous également. Moi je ne vais pas réécrire le livre. Concernant les actes, vous connaissez ma position, je l'ai dit tout à l'heure. On a eu pas mal d'échanges, il y a eu des réunions, il y a eu des comptes rendus radio, il y a eu la presse écrite et télévisée. Donc je pense que, encore une fois, j'ai envie, au village, il y a eu autant d'écho sur cette chose, de croire qu'il se construit comme un bureau, et qu'on oublie que dans différents villages, on se fait pratiquement la même chose, mais bon, on a eu les faveurs de la presse. On aura à cœur de montrer qu'effectivement, cette réalisation sera exemplaire. Donc, moi, j'ai tout à l'heure, dans le cadre du préambule, évoqué les grandes lignes pour lesquelles on s'était avancé à faire une ZAC, au-delà de l'aspect purement urbanistique, architectural, etc., etc. Au-delà de tout ça, et du fait que aussi on s'aventurera vers un quartier éco-responsable, durable, qui s'appelle les quartiers d'Occitanie. En plus de cela, tout ce qui a pu être construit sur le village, pour quelques fois même, pour pratiquement tout le temps, impacter les finances de la commune, là, après la phase suivante, qui sera le choix de l'aménageur, aura obligation de participer à des infrastructures sur la commune. Donc, je veux dire, la commune sera dotée d'un outil qui me semble exemplaire. Et en plus de ça, financièrement, elle s'y retrouvera très largement. Donc voilà, en gros, ce que je peux évoquer, c'est que dans le cadre de la concertation, on a reçu 24 courriels au mois de juin, 3 courriels au mois de juillet, 3 courriels au mois d'août. Les questions qui ont pu être évoquées sont sur l'écoulement des eaux fluviales. Alors, s'il y a des questions qui peuvent être posées, M. Ruiz, qui est ingénieur avec le bureau d'études Rubio, pourra répondre à ces questions. Mais ce que je peux dire concernant le pluvial, c'est que tout ce qui incombe à la ZAC sera pris en compte par les écoulements et il y aura des bassins de rétention, les ruisseaux seront, les ripisylves seront largement pourvus d'écoulement puisque de part et d'autre du ruisseau, 10 mètres et 10 mètres, donc ça fait 20 mètres de ruissellement, donc je veux dire ça peut couler. Et ensuite, y compris les effluents à amont qui normalement incombent pas à la ZAC seront pris en compte, à la ZAC, seront aussi pris en compte. Donc, voilà. Après, Après, concernant les questions à la ressource en eau, ben, la ressource en eau, le village est largement pourvu, puisque au mois de décembre, une connexion va s'engager avec l'ancien puits de Rabieux. On va fournir nos amis de Saint-Saturnin, Saint-Guiraud, Jonquière, et voilà, Saint-Saturnin et Jonquière. Donc, par contre, nous nous sommes tenus que la réalisation puisse se faire d'être dans un rendement de 75%. Les problèmes de circulation, une étude sera faite de façon à ce qu'on soit au mieux avec cette circulation liée à la ZAC, de façon à ne pas impacter les habitants qui seront en amont. Concernant, il y a des questions qui ont été posées sur la viticulture. On essaie autant que possible d'aider la viticulture sur le territoire et les zones qui sont prises s'appelaient les prés de la ville, donc ça a toujours été des endroits où il n'y a pas eu moult vignes de plantées. Et cette terre nous a été indiquée et conseillée par la Chambre d'agriculture. Après, il y a eu des questions sur les bornes électriques, concernant ce que va devenir l'ancienne mairie, comment s'organisera les parties, etc. Donc, et concernant les achats, mais les achats se seront faits avec l'aménageur, et nous avons contacté les domaines qui est un organisme d'État, c'est l'État qui est géré par la préfecture, qui fera un estimatif des terrains. Donc on est en attente de ce dossier. Ensuite, concernant l'environnement, comme on l'a dit, les platanes à l'entrée seront préservés. Il y a des questions qui sont posées au niveau de la densification et des dents creuses et les logements vacants. Concernant les logements vacants sur la zone essentiellement vacante, il y a aujourd'hui 20 logements vacants, les autres étant des logements qui sont soit en cession, soit en réparation, soit entre le fait qu'un un locataire s'en va et l'autre vient, les autres ce sont des logements qui sont les problématiques de succession. Les vrais logements vacants sont 20 logements. Voilà. En gros, les questions qui ont pu être posées. Et puis concernant l'environnement, je lui dis l'intitulé de la DREAL qui dit « Le projet n'est pas susceptible d'entraîner d'impact notable sur l'environnement », c'est-à-dire le projet de création d'un maison la ZAC concertée près de la 10, objet de demande, et donc de ce fait ne sera pas soumis à l'étude d'impact. Toutefois, dans le cadre de l'aménagement, si besoin est, une étude pourra être faite pour compléter la première. Voilà. Oui.
J'ai juste une question. Quand je t'ai entendu parler des platanes, je me souviens que la dernière fois, comme je n'étais pas là au dernier conseil, j'ai peut-être loupé quelque chose. La question de l'entrée de ce nouveau quartier par la départementale était encore en questionnement au niveau du département, on n'avait pas eu de retour. Est-ce qu'aujourd'hui la commission a eu un retour du département pour savoir comment se ferait l'entrée par cette départementale au niveau d'accès du nouveau quartier?
Alors, au jour d'aujourd'hui, le département ne nous a pas répondu. La seule chose qu'on a communiqué au département, peut-être que Jean-François, tu pourras donner une information si tu as eu des retours du département. Mais nous, la commande qu'on a faite, c'est qu'ils travaillent effectivement cette entrée du village sans avoir à toucher au platane. Bon, après, je ne sais pas sous quelle forme, je ne suis pas technicien en matière de circulation, comment ça va se faire. La commande est là, donc les services de l'État, du département, ne nous ont pas encore répondu là-dessus. Déjà pour toi, tu as quelque chose toi, par rapport à ça?
Juste, pas d'informations complémentaires. Effectivement, les échanges que j'ai eus avec les services du département en tant que bureau d'études techniques, c'est qu'effectivement, il fallait décaler l'accès possible de la ZAC en dehors donc de la zone des platanes, pour ne pas impacter les platanes. Après, sur le mode de carrefour, je dirais, ils ne se sont pas positionnés. Donc ça fera partie des études. Il y aura dans le cadre de l'étude, des études à venir, des études de circulation, qui définiront le type d'aménagement, tourne à gauche, rond-point, placette. Le retour du département, c'est on conserve les platanes, vous décalez l'entrée en dehors de l'entrée des platanes, mais ils n'ont pas arrêté aujourd'hui dans ce stade de géométrie du carrefour.
Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, la première. Alors, donc, j'étais parti sur 45 pavillons. Excusez-moi, il me semble me souvenir qu'on nous avait montré 37 logements de type contigu plus 45 pavillons, mais j'ai peut-être rêvé. Donc, il n'y en a plus que 30 et tout le reste serait des constructions mitoyennes. C'est ça?
Alors, ça, c'est...
On va parler en termes clairs, c'est-à-dire combien il va y avoir de constructions avec du terrain autour, jardin, piscine, etc.
L'idée, c'est effectivement de faire un village rue. Donc il y a effectivement du contigu. Maintenant, c'est la définition même de village-rue sera définie avec l'aménageur dans le cadre du cahier des charges qui sera mis en place pour dire, voilà, ils seront mis comme ça, à droite, à gauche, etc. Et l'idée de village-rue, oui. Alors, à voir comment ils seront positionnés, c'est des choses qu'il faudra qu'on définisse effectivement avec l'aménageur.
Oui, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui a une certaine importance sur le principe de voter ou non la création de la ZAC.
La création de la ZAC, si je me permets, la création de la ZAC, aujourd'hui, on le définit comme périmètre. Oui. On définit un périmètre et on définit un nombre de logements et on définit un nombre de, une superficie de voirie et une superficie de paysager. Après, pour le reste, pour savoir si les toits seront en ardoise, en tuile, en plat ou pas, quelque chose qui sera, si les murs seront en pierre, en bois, etc., c'est quelque chose qui sera défini, s'ils sont en retrait, en avant, etc., si les arbres seront devant, derrière, etc., c'est quelque chose qui sera défini dans le cadre. Aujourd'hui, en fait, la création de la ZAC, c'est comme si on arrêtait un périmètre de plus. Plus définit un périmètre, il dit à partir de là, on peut construire. À partir de là, il y a une rue. À partir de là, ben, il y aura un espace public, etc. Et après, à l'intérieur, progressivement, ben, les constructions arrivent. Et c'est permis de construire qui nous permettra. Nous, un gros avantage, c'est nous, au lieu que dans un plus normal, c'est monsieur Thème ou monsieur XY qui viendra faire une maison comme ça. C'est nous qui dirons aujourd'hui les maisons, elles sont comme ça.
D'accord. Alors dans ce cas-là, est-ce que le document que nous avons reçu pour ce conseil, sur lequel nous allons baser notre décision, est un document contractuel avec les projections qui ont été faites? Ou est-ce que c'est encore un document qui n'est qu'une vague projection, tout va changer, ceci, cela? À un moment donné, il faut bien qu'on se prononce sur des bases claires et précises.
Ben, je te le dis, aujourd'hui, on se définit sur le périmètre de la ZAC,
d'accord,
le nombre d'habitations, etc., etc.
Et les emplacements des parkings, tout ça, c'est défini?
Non, les emplacements des parkings, c'est nous.
Ben, parce que c'est sur le document, encore une fois, on a un parking. Alors, il faudrait savoir, nous, excusez-moi, je ne suis pas urbaniste, je reçois un document, je vois une projection, je base mon idée là-dessus. À un moment donné, il faudrait quand même qu'on ait quelques... J'ai l'impression, excusez-moi, mais ça me fait penser, il y a un député qui a une phrase, il y a quelques jours, que j'ai trouvée très très belle, on nous demande d'acheter un cheval dans un sac. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise, oui, on est d'accord, et on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans, parce que c'est à discuter plus tard. Ça ne peut pas fonctionner comme ça.
Aujourd'hui, la création d'un point de vue, administratif, la création de la PAC, c'est tu te définis sur un périmètre. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire, parce qu'on n'a pas, c'est l'aménageur qui va s'en occuper. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire si la maison elle sera à droite, à gauche, petit, monde. Aujourd'hui.
Mais à quoi a servi la réunion alors ?
Eh bien, parce que la prochaine étape, aujourd'hui, on définit le périmètre de constructibilité de la ZAC.
Il est défini depuis 2017-2018. On a eu une réunion, on nous a fait des projections.
Aujourd'hui, on l'a énoncé. Aujourd'hui, on l'arrête. On l'arrête et on le vote. On vote les surfaces. Et après, dans ces surfaces, on établira des habitations qui correspondent. Aujourd'hui, c'est... Ne mettons pas, je te reprends une autre phrase, la charrue avant les bœufs.
Et justement, c'est ce qu'on est en train de faire, mais ce n'est pas grave. Par contre,
Du coup, j'entends effectivement qu'on arrête le périmètre et le nombre de logements. Du coup, j'ai dû louper une info. Habitat collectif, on parle bien des logements sociaux, du coup. Je voyais le chiffre de 17, et il me semblait depuis le début qu'on parlait de 12-13. Donc, je voulais juste qu'on éclaircisse pourquoi...
12-13, c'est que sur le démarrage, effectivement, nous, on avait espéré que, comme sur la commune, nous avons 5 logements sociaux, qu'ils les déduisent, puisque sur la surface, c'est 20%. 20% de 80, là, ça fait 17. Si tu enlèves les 5, on tombe à 12. Et donc, c'est en espéré, mais bon, les surfaces de l'État ont été intangibles là-dessus et nous disent donc c'est 20% de logements, donc on est à 17 logements. Sur les 17 logements, sachez que la commune aura la même mise sur 80% de ces logements.
Si je peux permettre un avis personnel, donc on a 5 logements qui sont à la main de la commune en ce moment. Moi, j'aurais été plutôt favorable, effectivement, qu'on continue dans cette. Lancé là et que même dans le nouveau quartier, on garde la main sur nos logements sociaux dans ce même esprit. En tout cas, voilà, si je peux me permettre de donner mon avis personnel.
Oui.
Ce n'est pas désespérant d'avoir des logements sociaux. Déjà. Voilà, et vraiment, enfin voilà, j'espère que nous partageons ce point de vue. Moi, je me demandais ce que c'était des logements denses, du coup.
Quand on fait un village rue, les logements denses sont des logements qui sont collés.
Collés, voilà. C'est-à-dire, c'est comme les maisons de village, en fait.
Dans les vieux quartiers du village.
Voilà. On distingue donc les denses avec les collectifs, juste parce que les collectifs sont des logements sociaux.
Il faut les différencier. Donc, ils seront sûrement dans la densification.
On pourrait dire autrement qu'il y a 29 logements individuels et donc 52 logements tout court, de type rue village. Et après, à l'intérieur, il y a tout type de population parce qu'il y a de la mixité.
Oui, parce qu'il y aura aussi dans ces logements, outre le fait de la densification qui seront.
Oui.
Il y aura du locatif, de l'accession à la propriété, enfin voilà. C'est justement pour favoriser cette mixité sociale et, entre guillemets, du logement individuel.
Et donc il n'y en aura que 30 logements individuels.
Oui.
D'accord.
Ce qui est difficile à comprendre, effectivement, c'est que, en fait, c'est vrai qu'on comprend que c'est comme une page blanche à écrire, cette ZAC, si je comprends bien, c'est un peu ça. Et en même temps, on a vu des études qui sont déjà faites et qui ont été projetées, donc tu vois, c'est le... Il y a eu des études, la fête est projetée, on a vu des images avec des
cabinets. Oui, c'était des exemples qui pouvaient nous amener à réfléchir sur ce que pourrait devenir quelque chose.
Je m'excusais parce que j'ai rien du tout, j'ai rien contre toi, mais j'espère bien quand même que ce n'est pas pour rien, parce que vu le prix des études, si c'est une page blanche aujourd'hui et que tout est encore possible, ça ferait cher quand même le...
Tout est encore possible. Sachez que l'étude en elle-même est financée par l'aménageur. L'étude ne coûtera rien à la commune.
D'accord.
Deux petites questions sur l'environnement. Vous avez parlé de l'eau, Donc effectivement, on est dans les interconnexions, on va essayer d'avoir 75%, on est à 63%, on ne pourra lancer, etc. D'accord. Cela dit, à moins que... Je me suis mal exprimé lors du dernier conseil, donc je voudrais corriger un petit peu. À moins que je ne me trompe, il me semble qu'on a eu droit à des restrictions d'eau cette année, émises par la préfecture, ou alors je me trompe, et par la CCVH. Donc, est-ce qu'il est... Nous avons une étude de l'eau qui date de... Quelle année, s'il vous plaît ?
Je n'ai plus en tête. Maintenant, il y a une étude, il y a une étude
qui a été faite par la... Ils augmentent les captages.
Et dont le rendu nous a pas encore été fait. Donc
voilà, mais celle qui a autorisé tout ça.
Est-ce que...
L'étude qui a autorisé, sur laquelle on se base pour avoir l'autorisation du PLU et de la ZAC, elle date de quelle année ?
Je ne sais pas.
En tout cas, elle date depuis d'avant les premières manifestations concrètes que nous avons depuis maintenant 2-3 ans du changement climatique avec... les problèmes de manque d'eau qui se mettent en place. Alors, je veux bien qu'on cherche des captages, c'est très bien, mais est-il vraiment raisonnable de continuer à se développer pour puiser dans une ressource qui va être de moins en moins disponible ?
Alors, pour ta réponse, je te l'ai dit tout à l'heure, si, moi j'ai été pendant 19 ans président du DRAC, je connais un petit peu son fonctionnement, je sais qu'à l'époque, pour des raisons pratiques, on devait aider à alimenter la ville de Gignac. Il se trouve qu'entre-temps, eux, donc si on devait aider à alimenter la ville de Gignac, c'était que nos capacités étaient suffisantes, en partie, voilà. Il se trouve qu'entre-temps, ils ont trouvé de l'eau à la Combe et les Salinières, et qu'eux ont donné de l'eau à la ville de Gignac. Donc si la connexion se fait avec nos amis de Saint-Saturnin, Saint-Guiraud et Jean-Pierre, en ce fait, c'est que notre capacité à fournir de l'eau est largement suffisante. Et c'est que eux, ils ont des données récentes qui le permettent. Ils n'iraient pas faire une canalisation qui va coûter 600 ou 700 000 euros si dans le puits dans lequel on pompe, il n'y a pas d'eau. Et puis, les restrictions de la préfecture, elles s'étendent à tout le monde. Ceux qui ont de l'eau, comme ceux qui n'en ont pas, dans un but, effectivement, d'être solidaire des communes qui n'en ont pas. Donc, voilà.
Tout à fait. Mais je comprends tout à fait. Je vais juste prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec Montpérou, mais la France a adhéré à l'interconnexion des réseaux électriques européens il y a déjà quelques décennies. Et c'était une époque où nous avions un large excédent énergétique grâce à nos centrales nucléaires et autres. Voilà. Donc on a une interconnexion, comme on va l'avoir au niveau de l'eau. Il se trouve que maintenant on a quelques centrales à l'arrêt et qu'il est possible, alors nous on ne sera pas touchés à Montpérou, qu'il y ait des délestages, c'est-à-dire des coupures de courant dans certains endroits. On peut très bien imaginer qu'à l'avenir ça va se produire, quelles que puissent être les ressources qu'on va retrouver. Si on doit partager, à un moment donné, il y a bien des régions où il manquera de l'eau. Donc, pensez la question de l'eau en amont. En amont. Deuxième point, je lis dans le rapport que nous avons, néanmoins, concernant l'environnement, néanmoins, la commune a d'ores et déjà prévu et estimé que si une étude complémentaire s'avérait nécessaire, sans forcément être à caractère obligatoire, en cours de projet, elle serait effectuée. Ben, je dis chiche, faisons-la et décidons une fois qu'elle aura été rendue. Chiche.
C'est l'étude sur l'environnement. Oui.
L'environnement. Chiche. Ouais. Faisons-la et on décide après.
On la fera en cours.
Oui, on décide d'abord et
je
on la fait
ensuite. Je vais dire plus fort parce qu'on n'entend pas quand tu parles comme ça et tu interviens beaucoup, donc dis-le autrement.
Faisons-la et on décide après.
Oui, c'était trop cher, l'étude de 5 minutes.
Et moi je dis, et vous êtes tout le temps sur la défensive, ça c'est terrible.
Ah non, mais attendez, monsieur le maire, s'il vous plaît. Répondez à ma question.
Je te le dis, vous êtes tout le temps sur la défensive.
Très bien.
Moi, je pense que vous avez peur.
Absolument.
N'ayez pas peur. Les gens qui vont
Jean-Paul II disait ça en Pologne.
Les gens qui vont venir, ils ne vont pas nous manger.
Mais non.
La ZAC, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre.
Monsieur le maire,
Arrêtons de faire des enfants.
Excusez-moi, Françoise, ne rentre pas dedans, s'il te plaît. Je pose une question. Je pose une question. Je veux une réponse à ma question et non pas une remise en cause de ma personne ici pour les propos que je tiens au conseil municipal. C'est tout à fait inadmissible. Je ne vous caractérise pas en tant que personne. Je ne dis rien des émotions que vous pouvez. On est ici pour parler de la ZAC et de la question que je vous ai posée. D'accord ? Ce que vous dites, excusez-moi, c'est hors sujet. Point. Je souhaite une réponse à ma question.
Je te laisse le soin et ton appréciation. Néanmoins, tes questions sont conditionnées par ton positionnement et ta philosophie.
Et vos réponses tout autant.
Donc moi, je te dis non par rapport à ta question.
D'accord, vous me répondez non. Très bien.
Et je dis que l'étude sera faite.
Alors,
d'accord.
C'est peut-être l'occasion de lever un malentendu. C'est vrai que je vois Marie-Claire, que je connais bien, voilà. Non, on n'est pas contre, on n'est pas pour la fermeture du village, simplement. L'accueil des nouveaux habitants, on avait pensé dans le groupe avec le collectif qu'il pouvait y avoir d'autres moyens que la création d'une ZAC et de nouveaux quartiers pour accueillir progressivement, effectivement, les gens. Et c'est là où on est, effectivement, peut-être pour le coup, sur la défensive, c'est parce qu'on en a marre qu'on nous fasse, si tu veux, on se balade avec un espèce de petit nuage noir sur la tête.
Enfin, on dit qu'on se balade.
Ça suffit. Il y a vraiment un problème de ressources. D'ailleurs, il y a des villes... Bon, c'est vrai que peut-être que nous, ici, on est privilégiés. Bon, on peut quand même sérieusement se dire qu'on est dans ce monde, même si en Pérou, on n'est pas hors du monde. Il y a effectivement les problèmes de l'eau, des sécheresses, mais c'est partout pareil. Et c'est vrai qu'il y a des villages qui bloquent, au contraire, leur construction. Là, je ne sais pas si tu as vu... c'est passé dans la presse, voilà, pendant quelques temps, par rapport à une gestion des ressources. Après, vraiment, c'est un vrai malentendu si vous pensez qu'on est contre l'accueil de nouvelles personnes à Montpérou. Simplement, ça nous paraît, voilà, ces 80 logements, là, alors j'espère effectivement, j'ai relu que c'était sur 10 ans. Donc ça me paraît très, très important. Parce que c'est différent, effectivement. Voilà. Oui,
on a toujours dit ça. Oui, je pense que. Je vais vous dire une chose. Si la même quantité de logements, si la même quantité de logements, on les avait fait à droite et à gauche, personne ne se serait levé. Personne ne se serait levé. Parce que.
Alors là,
sauf que d'un point de vue. Sauf que d'un point de vue. Alors, que les 80. Familles qui vont arriver, qu'elles soient dans des logements existants ou dans de nouveaux logements, dans l'existant vacant, ils consommeront autant d'eau que s'ils sont dans des logements.
Entre les mitoyens et le lotissement, pas pareil.
La réponse par rapport à l'eau, la problématique est la même.
Oui.
Pas du tout.
Après, sur le paysage,
c'est faux. C'est absolument faux.
Que ça, vous en soyez.
Très bien. Regarde des maisons mitoyennes et des maisons avec jardin et piscine, et tu vas me dire que c'est la même consommation d'eau.
Et dans un logement entre 2, 4, 6, 8, 10.
La moyenne, c'est de 2,1, entre 2,1 et 2,3 personnes.
On ne consomme pas tous la même.
D'accord.
Il y a des gens qui sont deux.
Pour une piscine, il en faut des douches.
Après,
pour un jardin, il en faut des douches. Voilà.
Je connais, sincèrement, mes voisins consomment plus d'eau sans piscine que moi.
Après,
sans jardin, etc.
Ça, c'est. Voilà.
Oui, c'est. Enfin, oui, les statistiques nationales, je suis désolée, elles sont très claires. Peut-être, mais dans ce cas-là, donne-moi les conseils.
Dans le cadre de ce nouveau quartier, puisqu'il va être écolo, il va être l'air durable, d'orienter justement les constructions avec des retenues d'eau, de façon à ce qu'on soit plus économe en matière d'eau, en matière d'électricité, etc.
Après, Claude, je reste persuadée qu'on a beaucoup de points communs, même si parfois ça ne se voit pas dans les conseils municipaux, et qu'on gagnerait à arriver à un endroit où on puisse se parler un peu plus, tu vois. Ouais. Voilà, si, moi je crois ça, mais il faut quand même à un moment donné aussi dans un village, et ce n'est pas le vouloir le fermer, que de vouloir qu'effectivement les gens continuent à se connaître, à vivre ensemble, etc. Ça, c'est une véritable question sociologique. Je sais, ce n'est pas le débat de ce soir, mais quand même, ça le rejoint. Et là, effectivement, moi, personnellement, Je ne suis pas contre les logements sociaux, je ne suis pas contre les nouveaux habitants. Je veux dire, moi, mon métier, c'est une vocation quasiment. Ce n'est pas du tout là-dedans que je suis. Mais par contre, que Montpérou reste un village et on est quand même sous la pression de la CCVH. J'ai rien contre la CCVH, mais on sent bien cette pression immobilière qui gagne tout. Bon, sachant que dans quelques années, il risque d'y avoir un effet inverse avec la sécheresse et les gens risquent de vouloir tout à coup remonter, mais on n'y est pas. Alors quand tu dis une vision, tu sais, la vision, elle est parfois, je ne dis pas contre ce que tu dis, je sais que tu as une vision, mais la vision, elle peut être contrecarrée très vite par une autre vision, hein, parce que la prochaine vision, la vision d'après, c'est justement un problème écologique de sécheresse où les gens risquent de remonter. Donc tu vois, c'est quand même relatif. Mais le village, il faut que les gens continuent à se connaître et à faire un village. On ne peut pas faire de l'urbain en campagne. Enfin, moi, ça, c'est vraiment fondamentalement ce que je crois, mais je pense qu'on se retrouve là-dessus.
Ben, le projet en lui-même est dans ce sens. Ce n'est pas un projet qui est surdimensionné pour la commune. Ce n'est pas un projet qui va défigurer la commune, puisque, justement, on le veut en prise avec l'existant, on le veut dans la même continuité architecturale qu'ont eu les anciens. Je veux dire, on y met une mixité sociale. Je veux dire, c'est pas ça. En plus de ça, comme tu l'as dit, j'ai oublié de le dire, qui est un élément important, ça va être phasé dans le temps. Jusqu'à présent, le village, il a tout le temps, il a fonctionné comme ça. Il y a eu entre 30 et 40 habitants, 50 selon les années, de plus par an. Et on les a absorbés, et c'est pour ça que le village, il est aussi dynamique sur le village, qu'il y a autant de vie associative, que les commerces marchent bien, parce que, justement, la mayonnaise a bien pris, etc. Et je suis désolé, je dis, n'ayons pas peur. Ces nouveaux habitants, ils vont apporter la dynamique qui peut s'essouffler à un moment donné, parce que les gens... ils ne seront plus en capacité d'être devant et qu'il faut qu'il y ait maintenant des gens qui soient aussi devant. Là, Montpérou, il est à ce niveau-là parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Les anciens dont nous faisons partie, les anciennes familles dont nous faisons partie, dont certains font partie ici, on est minoritaire quoi, sur le village. Donc le village, il vit grâce aux nouveaux. Donc je dis, et c'est eux qui sont aujourd'hui l'âme de notre village. C'est eux qui en confèrent notre identité. Alors, on les aide aussi dans ce sens. Mais voilà, je crois que ce projet est un projet qui, justement, va dans ce sens. Il ne va pas à l'encontre de la vie, de la dynamique du village, bien au contraire.
Alors, personnellement, je trouve que la rhétorique de la mise sous cloche, de la lyophilisation, de la peur de l'étranger, etc., elle est un peu éculée dans nos débats. Je pense qu'on est tous ici d'accord pour accueillir des gens à Montpérou. C'est simplement le moyen de les accueillir qui nous divise, notamment au niveau de cette ZAC. Je voudrais juste poser dans ce cas quelques petites questions très techniques parce que j'ai besoin d'y voir clair. Vous avez dit que vous avez reçu trois contributions de citoyens au mois d'août. Voilà. Non, mais peu importe. Le 12 août ou le 10 août, vous avez mis en ligne les éléments de réponse avec l'aide qui ont été rédigés visiblement avec l'aide du cabinet qui accompagne la mairie. Je voulais savoir s'il y avait eu des questions depuis, parce que s'il y avait eu des questions depuis, il eût été normal de fournir des éléments de réponse. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve absolument anormal que l'on ait appris la fin, au niveau formel, que l'on ait appris la fin de la concertation moins d'un mois avant son échéance, alors qu'on vous l'avait demandé au mois de juin. Je ne vois pas ce qui a justifié la rétention d'informations concernant la fin de la concertation. J'aimerais quand même avoir quelques explications à ce niveau-là. Et le dernier point, il est marqué dans le document qui nous est remis qu'une personne a consigné, visiblement, une seule personne, à consigner dans le cahier. Nous sommes 1400 habitants. Est-ce que sur le fonctionnement d'une concertation, ça ne vous interpelle pas qu'il n'y ait qu'une seule personne qui se déplace à la mairie pour écrire quelque chose? Est-ce que ce n'est pas significatif de quelque chose?
Par rapport à cette question, la mairie est ouverte tous les jours de la semaine. le cahier est à la disposition de tout le monde. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ne passent pas comme vous.
Voilà. Je rajouterai que la mairie a été inaugurée il y a 2 ans, qu'elle est très belle, qu'elle est en grosse pierre et qu'il y a de la lumière. Je souhaite une réponse à la question. Vous dites la mairie est ouverte, pour moi ce n'est pas une réponse à la question. Je veux, sur le fond, est-ce que ça ne vous interpelle pas, cette absence de déplacement des personnes à la mairie pour noter physiquement, se présenter physiquement pour noter quelque chose dans le cahier.
Il y a des gens qui sont venus à la mairie, hein, regardez.
Il est marqué une...
Il y a une personne qui a écrit. Moi, j'en ai vu des gens venir regarder. Hein. C'est pas parce que tu viens regarder que tu vas forcément écrire dans le cahier. Hein.
Je vous demande si ça vous interpelle au niveau du fonctionnement d'une concertation. Voilà, c'est une réponse fermée. Hein. Vous pouvez répondre par oui ou par non ou développer.
C'est-à-dire, derrière, il y a un sous-entendu.
Non, je vous demande si ça vous... Moi, ça m'interpelle. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné dans cette concertation. Mais c'est ma réponse.
Peut-être qu'il y avait une personne qui avait quelque chose à dire, d'autres, les autres personnes n'ont pas eu de chose à dire.
D'accord.
Sans porter de jugement. Hein.
D'accord.
C'est mon avis. Hein. Après, ou peut-être que tu le partages pas. Hein. Voilà.
Concernant les questions reçues après la mise en ligne du document, moi, je peux apporter la réponse. Sur les 3 questions, il y avait 2 questions qui demandaient la date de fin de concertation. Date qui avait été annoncée en conseil municipal, affichée.
Et à la réunion publique aussi, non. De la ZAC.
Non. À la réunion publique, elle n'a pas été annoncée, justement.
Au dernier conseil. On disait déjà que c'était 1 mois et demi.
Il n'avait pas été donné de date
précise.
Plus court.
Il a déjà été dit 1 mois et demi plusieurs fois.
Mais... Et la troisième. Le troisième mail n'appelait pas de réponse.
D'accord. Enfin, une question qui, pour moi, est très problématique sur le document donc, que nous allons voter. Il y a quelque chose qui apparaît manifestement comme une contre-vérité. Je suis désolé, on va reparler du pôle ludique et sportif. Parce qu'il est marqué, en effet, si sur le document initial, il était dessiné un terrain de foot, il s'agissait d'illustrer un équipement collectif, il s'agissait d'un exemple. Or, nous avons la preuve que c'est une contre-vérité. Parce que dans le rapport de la commissaire enquêtrice, il est fourni tout un argumentaire pour justifier le déplacement du terrain de foot dans cette ZAC. Donc, la question que je pose, est-ce que nous votons un document qui, une fois de plus, je suis désolé de le dire, contient quelque chose qui n'est pas exact et nous pouvons attester que ce qui est marqué là n'est pas exact.
Félix, tu me fatigues.
Oui, ça m'est égal.
Ça fait une seule fois qu'on le dit, oui. Qu'on le répète.
Oui. Voilà, c'est... Mais aujourd'hui, nous votons. C'est pas pareil. Nous votons un document qui est faux.
Pour la bonne simple raison, en plus de ça, c'est que dans le cadre des aménagements, l'espace qui était aussi... qui aurait pu être prévu pour ça, va être évacué et, la surface ne satisfera pas un terrain de foot.
D'accord. Non, mais très bien. Mais dans ce cas-là, il faut mettre, il était écrit par erreur, mais assumer le fait qu'on a expliqué au monde pérousien dans les réunions, etc. Dernière question, qui a d'ailleurs trait à l'espace sportif et ludique. Le 5 décembre 2017, la foncière DOC a acheté 6920 m² de terrain dans la ZAC. La foncière DOC. Société foncière DOC. Voilà. Le 5 décembre 2017. À l'époque, la ZAC était déjà prévue. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la mairie, surtout que ça concerne maintenant un des terrains concernés par le pôle ludique et sportif, pourquoi la mairie, à ce moment-là, n'a-t-elle pas fait usage de son droit de préemption ?
Parce que pour les 101, je ne sais même pas si ça a été acheté. C'est une
ça a été acheté, ça figure au cadastre.
Parce que nous, on est allé voir le propriétaire et qu'il avait déjà fait
Excusez-moi, mais quand moi j'ai acheté ma maison, ce n'est pas moi qui suis allé prévenir la mairie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Normalement, la mairie est avertie et on lui demande d'exercer ou non son droit de préemption. Donc qu'est-ce qui s'est passé ?
Pour exercer un droit de préemption, il faut avoir monté pour préempter.
Eh bien si, il y a la ZAC.
Non, la ZAC n'est pas prévue.
Ah, elle était prévue, j'ai les documents, pardon.
Non, mais...
Je suis désolé, elle est votée. Ou alors la ZAC a été préparée en 6 mois et demi. Parce que c'est en décembre et le PLU est voté en juin 2018. Donc je veux bien. Non, j'ai un document qui atteste qu'elle était prévue. Et elle était déjà zonée.
L'initiative de la ZAC n'était pas encore prévue.
La zone de la ZAC était prévue, enfin.
L'initiative n'était pas votée.
Mais l'initiative n'était pas votée, mais on savait que la ZAC allait se faire là. Attendez, on va jouer là. Alors peut-être que je vous fatigue, mais moi, ces jeux d'échappatoire, ils me fatiguent personnellement. Hein. Là, j'aimerais avoir une réponse. Pourquoi la mairie n'a pas fait l'usage de son... La société foncière DOC, soit dit au passage, c'est Rambier. Ah ben donc vous le savez, donc vous connaissez le dossier.
Oui. Ben alors, propriétaire pour lui.
Ben alors. Et alors pourquoi pourquoi vous n'avez pas préempté
hier?
Parce que le compromis était déjà signé, qu'on n'a pas pu.
Mais vous en êtes, vous êtes averti avant.
On ne pouvait pas préempter parce qu'on n'avait pas de motif pour le pour préempter.
Absolument que si, la ZAC est un motif suffisant.
À l'époque,
c'est faux.
Le périmètre,
c'est faux.
C'est comme les piscines démontables qui restent et qui sont imposables.
À l'époque, le périmètre de la ZAC. Ne comprenait pas, ne comprenait pas ça.
Si.
Non, le périmètre de la ZAC ne comprenait pas. C'était le périmètre de l'OAP, pas le périmètre de la ZAC.
Oui, mais l'OAP, vous saviez ce qui allait s'y mettre. On avait déjà discuté du stade.
Et deux choses différentes.
C'est pas vrai.
Et pour le faire.
Non, mais attendez. Attendez. Soyons sérieux, 30 secondes.
Soyons sérieux.
Soyons sérieux.
Le périmètre de l'OAP. Le périmètre de l'OAP, il y a effectivement.
Et dans l'OAP, on avait dit, c'est comme ça, on n'avait pas parlé de ZAC auparavant. Vous m'attestez qu'avant le 5 décembre, la ZAC n'était pas prévue à cet endroit.
Françoise faisait partie.
2017.
Françoise
a avant le 5 décembre 2017, monsieur, la ZAC n'était pas prévue. Vous maintenez dans le conseil municipal publiquement.
Monsieur Louchka, vous êtes quand même hyper agressif. Franchement, c'est désagréable.
Oui, mais on est en conseil. On ne va pas se mettre non plus. Je respecte l'enfant, mais on ne va pas se mettre à tricoter parce qu'il y a un nouveau-né.
On vous entend.
Oui, mais merci. Voilà, je vous entends, mais je veux ma réponse.
Madame Louchka était présente aussi au conseil municipal en 2017. Est-ce qu'elle a entendu parler de ça?
Moi, j'ai entendu parler. Le premier point duquel nous avons parlé quand on évoquait déjà, c'était le transfert du stade. Oui, c'était la première histoire, c'était le transfert du stade.
Un projet.
Puisqu'on nous demandait quand même à tous ce qu'on pensait, où est-ce qu'il était projeté.
Donc c'était dans un échange, pas au niveau des papiers, pas au niveau des avancées.
Si.
On ne parlait pas de ZAC.
On ne parlait pas de ZAC en tant que tel. Mais il y avait déjà le projet.
Oui, c'était l'OAP, on avait défini un périmètre, c'est tout.
Ça définissait l'opération globale d'aménagement.
Je souhaite surtout avoir donc votre réponse, c'est que la ZAC n'était pas prévue, on ne savait pas qu'on allait installer le stade, etc. à cet endroit. Le périmètre de la ZAC n'était pas défini, donc le stade, tout ça, il n'en avait pas été parlé. C'est la question que je pose publiquement, ici, maintenant, très calmement.
Le périmètre de la ZAC n'était pas arrêté en 2017, oui.
Et il n'était pas prévu.
Non.
On est d'accord.
Moi, j'avais juste une dernière question sur les moyens que nous, en tant que commune, on disposerait pour imposer à l'aménageur notre vision, en tout cas de la qualité urbanistique, et pareil sur auprès des particuliers. C'est ça ma question. Et voilà, et sur l'étalement aussi des constructions, quels sont nos moyens pour forcer l'étalement, l'échelonnement, pas sur les
charges. On va signer avec l'aménageur, on va signer un contrat. On va signer un contrat, dans ce contrat, il y aura un
Et les permis de construire qui seront déposés seront examinés. Et s'ils ne correspondent pas au cahier des charges, ils seront refusés. Et en construction, puisque c'est nous qui signons les constructions, à un moment donné. Certaines constructions ne correspondent pas, on ne signera pas, c'est tout, quoi. C'est bon ? Ok. Bon, on peut dire que quand même, même si on n'est pas d'accord sur tout, il y a eu débat, et que concernant l'arrêt de la concertation et la création de la ZAC, les uns et les autres, nous avons pu nous exprimer. Donc nous passons au vote. C'est qui est contre?
Contre le vote de la ZAC?
Oui. La création.
Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc deuxième point, la longueur de la voirie communale. À toi Bernard.
La longueur de la voie communale. Donc, vous savez que pour les dotations de l'État, il est calculé la longueur de la voie communale. Donc, jusqu'à présent, la longueur de la voie communale qui était prise en compte, c'était 8 km. Hein, c'est ça. Et donc, on a remonté tout ça. Stéphane a fait un gros travail de fourmi pour recalculer la longueur de la voie sur mon bureau. On est arrivé à 15 km. C'est ça, 15 km. Donc, mais c'est 8 km, ça remonte à des années, on n'avait jamais fait, je crois. Hein. Donc, on arrive à 15 km, donc je vous demande d'approuver ce calcul. Pour le calcul de la DGF, de la
journée. Ah, c'est ça qui est important. Voilà. Disons que l'augmentation de la surface de voirie communale va, nous l'espérons, à se conjuguer avec une augmentation de la dotation, puisque la dotation est calée sur le nombre kilomètres.
Pas que, mais en partie.
Donc voilà.
D'accord.
Là, c'est
bon. Il est
difficile de dire. Oui. Non. Voilà. Voilà. Quand on a calculé la longueur de la voie, c'est une proposition qu'on va faire. Je pense qu'elle sera acceptée dans ce.
C'est pour ajuster les budgets, en fait, c'est ça, derrière de dotation pour les travaux, etc.
Disons que chaque année, la préfecture demande l'IVR de voirie communale. Et normalement, chaque fois qu'il y a une création de voirie communale, on devrait le mettre à jour. Et au cas précis, c'était par exemple le chemin des Écouliers, donc peut-être 500 mètres ou un peu plus, il aurait fallu l'ajouter. Et au moment où on a travaillé sur le dossier, comme dit Bernard, on a fait un travail vraiment de fourmi. Et quand on a vu la différence, j'ai pris contact avec la préfecture pour leur demander comment ça se passait. Et c'est là qu'ils m'ont dit, vous reprenez une délibération en conseil municipal. Et j'espère qu'avec les justificatifs et les plans joints, ils ne vont pas trouver à dire, parce que c'est vrai que ça double la longueur. Mais c'est à la limite, c'est quand on le fait avant.
Voilà. Oui. J'ai connu ça. Mm-hmm.
Dû le faire avant. Et la préfecture n'a pas non plus l'historique pour nous dire de quand ça date.
Juste okay. Une petite question. Les rues ou impasses ou chemins qui ne figurent pas dans ce listing ne sont donc pas des voies communales mais des voies privées?
Alors la définition des voies communales, c'est que ça n'est pas cadastré sur. Donc ça n'a pas de numéro de cadastre. Mmh. C'est ce qu'on appelle le domaine public qui est inaliénable et imprescriptible. Donc d'office, ceux-là, s'ils sont ouverts à la circulation, ça devient des voies communales. Et effectivement, il y a certaines, sûrement petites impasses ou petites parties qui soit ne sont pas ouvertes à la circulation, si ce n'est pas assez large pour que nos voitures passent, par exemple, soit sont cadastrées, et auquel cas, ce n'est pas le domaine public. Ça peut être le domaine privé de la commune, mais ce n'est pas le domaine public. Et là, on D'accord. parle du domaine public.
D'accord. Je parlais notamment du chemin de Vauquières et de son prolongement, qui appartiennent à la mairie. D'accord. Ok, merci.
Ok. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a fini?
Non.
Ah oui.
Le troisième point.
Il y avait un troisième point à l'ordre du jour, c'était l'engagement dans la charte zéro phyto. Donc là, l'objectif, effectivement, c'était de valoriser ce qui est déjà fait, en fait, sur la commune depuis de nombreuses années. Sauf que j'ai eu que vendredi le bon interlocuteur au téléphone qui m'a dit « Nous n'acceptons plus d'adhésion jusqu'à fin de l'année, donc ça ne sert à rien que vous délibériez maintenant. » Parce qu'en réalité, ils sont en train de refondre leur charte pour la mettre à jour et la mettre à niveau par rapport à la loi Labbé et intégrer davantage de choses en termes de gestion des eaux, de biodiversité, etc. Donc en gros, il m'a donné rendez-vous premier trimestre 2023 pour voir la nouvelle charte et du coup relancer le principe de cette adhésion. On redélibérera plutôt premier trimestre 2023 sur cet engagement-là, sur la base de la nouvelle charte. Là, en gros, si on délibère aujourd'hui sur la charte actuelle, elle sera obsolète. Donc en fait, voilà. vous propose de la supprimer de l'ordre du jour, monsieur le maire.
Juste par rapport à ça, il faut savoir qu'effectivement, nous, on n'a pas adhéré à la charte phyto, etc., où on voit souvent dans les entrées de village, zéro phyto, etc. Il faut savoir que ça fait 18 ans que la commune n'utilise plus aucun produit phyto.
Oui.
On ne désherbe pas les cimetières, on ne désherbe pas les rues, etc. etc. On n'emploie pas de produits
improlifères. Effectivement, etc. Par rapport à leur tableau de charte actuelle, on était au niveau terre saine, donc on était vraiment au top niveau en fait. Donc c'est dommage, mais bon, après on sera peut-être aussi au top niveau de la question charte.
Top niveau de
je ne sais pas, on ouais. verra. Mais du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça valorise la démarche de la commune. Et derrière, il y a toute une communauté de toutes les communes qui adhèrent, qui partagent les bonnes pratiques et voilà, qui se valorisent de diverses façons. Donc c'est hyper intéressant quoi, pour la commune. Valoriser cette bonne pratique.
Autre point que tu peux évoquer, puisque tu as parlé dessus, les déchets, vas-y.
Ouais, les déchets. Donc, la commune a reçu l'information il y a 10 jours, peut-être 15 à tout casser, d'un changement de mode d'accès pour nos concitoyens des déchetteries. Donc, en fait, ça a été une décision prise par le syndicat Centre-Hérault. Donc ils n'ont pas consulté ni la population ni les élus locaux parce qu'ils ont considéré qu'il s'agissait d'un aspect technique d'accès à la déchetterie et que du coup ça n'avait pas lieu de vote. Donc je vous fais part en tout cas du sujet et je vous fais part surtout du fait qu'effectivement c'est pas un choix de la commune ce nouveau fonctionnement. Et ensuite, donc du coup, le syndicat Centre-Hérault m'a expliqué, m'a donné ses divers arguments pour aller vers ce système-là. Donc tout d'abord, en fait, les diverses communautés de communes adjacentes à notre Comcom sont allées vers ce dispositif-là. Et donc, ils ont constaté depuis, au niveau du syndicat Centre-Hérault, au niveau de la communauté de communes, un afflux plus important des citoyens des autres communautés de communes sur nos déchetteries. Donc ils veulent interdire l'accès aux déchetteries de la communauté de communes Vallée de l'Hérault à ces citoyens-là. C'est ouvert à tout le monde. En fait. Il n'y a pas de contrôle d'accès.
D'accord.
Justement, donc du coup, considérant qu'effectivement les déchetteries sont payées par nos impôts fonciers, donc les impôts fonciers des concitoyens de la vallée de l'Hérault, donc les autres communautés de communes n'avaient pas à venir sur nos déchetteries. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point aussi, c'était de responsabiliser et accroître la civilité. Usagers auprès des agents techniques. Je vous fais part des arguments.
Le syndicat Centre-Hérault, c'est quoi ? C'est
les choses.
Oui, oui, mais ils ont dit autour des autres communautés de communes.
Celles qui font partie de la.
Oui, donc il y a eu beaucoup de remontées des agents techniques au sein des déchetteries sur des incivilités, un manque de respect des agents techniques. Voilà, donc ils espèrent que le fait que les personnes soient s'identifient, ça les responsabilise un peu plus et qu'ils respecteront davantage la parole de l'agent technique et la personne de l'agent technique. Et le dernier point était de contrôler aussi davantage les professionnels qui ne respectent pas aujourd'hui le fait que les déchetteries ouvertes, publiques et gratuites ne sont pas à destination des professionnels. Ils font le constat qu'il y a beaucoup de professionnels qui y vont malgré tout, qui ne vont pas dans les deux déchetteries dédiées aux professionnels. Sur le territoire.
C'est peut-être leur principe qu'il faudrait qu'ils rejoignent.
Donc, c'est aussi pour contrôler et empêcher les professionnels d'accéder aux déchetteries dédiées aux particuliers.
Oui, voilà. C'est bien leur réflexion.
Des arguments du syndicat Centre-Hérault pour ce nouveau dispositif.
On a discuté souvent et encore tout à l'heure avec Brigitte. Le but, en fait, ils sont un peu aux abois. Parce que en 2000, je crois que c'est en 2028 ou 30, il faut qu'on atteigne 130 kg par habitant. Sinon, la TGAP va augmenter d'une façon considérable. TGAP, c'est tout ce qu'on enfouit. Oui. Donc, tout ce qui va sous nous, tout ce qui n'est pas logiquement recyclable. Et alors, ils ont employé ce moyen qui est discutable, le fait d'y aller avec un badge, avec un 26, ce truc, ouais. Comment les gens vont pouvoir le faire, pas le faire, etc. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à partir du 1er novembre. Mais il va y avoir une période d'adaptation. Et il est fort probable qu'ils réajusteront, qu'ils modifieront. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est inciter les particuliers à être beaucoup plus vertueux en matière de tri des déchets, éviter effectivement que d'autres communautés de communes, mais extérieures au centre Hérault, viennent chez nous, éviter que les professionnels viennent jeter alors qu'il y a une déchetterie spécifique aux professionnels
Saint-André,
Gignac. Voilà, c'est un peu ça. Et bon, ils avouent que seulement ils veulent 130 kg par habitant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre communauté de communes est pratiquement à 200. Le Lot des Bois doit être à 230 ou 240, parce qu'ils ont encore les gros containers, malheureusement. Et le Clermontais doit être à Donc le but, c'est aussi d'inciter un peu les communautés de communes à enclencher un peu la vitesse pour que on soit un peu plus vertueux dans ce domaine, sachant que une fois la date passée, aujourd'hui, la tonne en fouille est aux alentours de 70 euros, elle passera à 150. Donc ça va faire cher pour les particuliers, tous les particuliers. Donc le but, c'est avant l'échéance, essayer d'insuffler aux particuliers permis de trier, etc. etc. Ouais,
je me suis permise de dire au syndicat Centre Hérault que le fait que ce soit un badge numérique, ça allait un peu à l'inverse de tout le travail que nous faisons pour pallier à la fracture du numérique, comme on dit, dans nos villages. Donc, a priori, ils vont mettre aussi en place un badge physique, papier. Donc, pour ça, il y aura des démarches téléphoniques à faire auprès du syndicat Centre Hérault. Et je les ai également alertés sur notre inquiétude par rapport aux décharges sauvages. Donc, on avait réussi à endiguer ces dernières années et on peut s'en rendre bien compte.
Ouais, ça va s'accentuer, là.
Et voilà.
Okay. Donc,
et tu peux leur dire aussi que ça va s'accentuer autour de la déchetterie. Avoir les plastiques dans les vignes, mais ras le cul. Excusez-moi l'expression. Je suis la poubelle de la déchetterie. C'était la prochaine du jour.
Juste au passage, alors, peut-être que la déchetterie n'impacte ta vigne à côté, mais quand même, très honnêtement. On a quand même la chance d'avoir des déchets.
Non, je ne suis pas contre. Mais à un certain moment, ils imposent des contraintes.
Beaucoup de communes aimeraient
avoir. J'aimerais qu'ils imposent leurs contraintes aussi. Il y a soi-disant des gens qui ramassent dans les déchetteries. Je ne les ai jamais vus. Jamais. Ce qui les faut plastiques, être... c'est moi qui les enlève, qui vais les amener à la déchetterie. Bon, je le fais avec plaisir, mais à un certain moment...
Mais quand même.
Et en plus, je vais payer parce que je vais en ramener. Je vais payer parce que je ramène le trou.
Allez, bonsoir.